Et chapitre suivant. Organisation de la 8e croisade, les premières escarmouches, la mort du prince Jean Tristan, les conseils du roi mourant à son fils, la mort de Saint-Louis, fin de la croisade et retour en France. Les années ont passé. Le roi, de plus en plus, se rapproche de la perfection. Le royaume est plus prospère et plus heureux que jamais. La justice est rendue, les seigneurs sont en paix les uns avec les autres, les pauvres sont secourus. Alors Louis IX pense de nouveau à la Terre Sainte qu'il n'a pu délivrer et dont il a gardé la nostalgie. Depuis Mansoura et Saint-Jean d'Acre, il ne songeait qu'à recommencer la croisade. Les tristes nouvelles reçues de Palestine augmentait encore son désir. En effet, Nazareth, puis Bethléem, Césarée, Antioche enfin, tombaient successivement aux mains des infidèles. Le roi se désespérait de voir retourner à l'islam les territoires qui avaient été reconquis. Il lui était insupportable de penser que le tombeau du Christ restait toujours aux mains des musulmans et de voir le christianisme disparaître peu à peu de ces pays qui avait vu naître et mourir le Sauveur. Dès lors, le projet d'une nouvelle croisade devint chez lui une volonté inflexiblement arrêtée. Il s'ouvrit de son attention au pape Clément IV et convoqua les barons francs et tous ses vassaux à une grande réunion qui se tint à Paris le 25 mars 1267. Désespérés à l'idée de voir partir le roi, une seconde fois, la plupart des conseillers jugèrent fort sévèrement l'annonce que leur fit Saint-Louis de son départ. Joinville lui-même, le si cher compagnon du roi, refusa de l'accompagner. Mais Louis IX fut inébranlable. Il avait décidé de partir et aucune remontrance ne put changer sa résolution. Pendant 3 ans, il prit toutes ses dispositions pour organiser et équiper l'expédition qu'il allait diriger, puis rédigea son testament et régla toutes les questions intéressant la régence du royaume durant son absence. Comme il emmenait avec lui les 3 fils qui lui restaient, sa fille Isabelle, son gendre le roi de Navarre et son frère Alphonse de Poitiers, il désigna l'abbé de Saint-Denis pour gouverner le royaume en son absence. Toutes ses affaires ainsi mises en ordre, il alla en pèlerinage à l'abbaye de Saint-Denis, puis se rendit pieds nus à Notre-Dame de Paris. Et le 15 mai 1270, il quitta la reine Marguerite, qu'il ne devait plus revoir, et s'achemina, après être passé par Vézelay, vers Aigues-Mortes, où il allait s'embarquer comme la première fois. Mais l'élan et l'enthousiasme qui soulevaient le roi de France n'avaient pas réussi à entraîner autant de volontaires que lors de la précédente croisade, et le nombre des croisés était beaucoup plus faible que 22 ans plus tôt. « Où va-t-on aborder cette fois ?» Lors d'un conseil de guerre qui réunit ses principaux vassaux, le roi leur fait part du but de l'expédition, Tunis. Pourquoi Tunis, apparemment si éloignée de la Palestine ? C'est que la Tunisie était à cette époque possession égyptienne comme la Palestine. Et c'est de ces terres très fertiles que les sultans d'Égypte tiraient leurs principales ressources, particulièrement en chevaux. Frapper Tunis, c'était frapper l'Égypte au point sensible. De plus, Charles d'Anjou, roi de Sicile et frère de Louis IX, qui était fort ambitieux, avait promis à son frère un large concours si la Tunisie était attaquée. Il espérait bien en tirer profit. Le principal objectif de Saint-Louis à cette expédition contre Tunis était l'espoir de convertir au christianisme le prince Al-Mustansir Billa, dont on disait qu'il s'intéressait à la religion chrétienne. Le roi de France lui avait fait envoyer des messagers. « Dites à votre maître, leur commanda-t-il, que je désire tant le salut de son âme que je voudrais être dans les prisons des Sarrasins jusqu'à la fin de ma vie, sans plus jamais voir la clarté du jour, pourvu que lui et son peuple se fassent chrétiens. » La flotte française met à la voile le 1er juillet, à Aigues-Mortes, et après avoir essuyé une violente tempête dans le golfe du Lion, aborde à Cagliari sur la côte de Sardaigne, où des troupes étrangères qui s'étaient embarquées à Marseille rejoignent les croisés avec le cardinal légat qui accompagne l'expédition. Le 17 juillet, l'armée aborde à Carthage. Rapidement balayés, les musulmans qui s'opposent au débarquement s'enfuient en désordre et le roi établit son camp dans une large vallée bien pourvue en eau douce. Mais les Sarrasins reviennent à la charge et harcèlent sans cesse les Français. De plus, ils usent d'un procédé déloyal, se présentant par petits groupes comme des néophytes qui demandent le baptême. On les accueille amicalement, mais sitôt qu'ils sont assez nombreux, ils massacrent une centaine des nôtres. La lutte continue ainsi pendant quelque temps. Guerre d'escarmouches et d'embuscades qui obligent les croisés à se tenir sans cesse sur leur garde. Le camp des croisés, situé sur un espace étroit, ne dispose pas d'eau potable à l'intérieur de ses limites. Pour atteindre le puits le plus proche, il faut livrer bataille. Cette situation est d'autant plus pénible que c'est l'été et que le climat auquel les Français ne sont pas habitués est dur. Pour comble de malheur, les Sarrasins envoient sur le camp des nuages de sable brûlant qui dessèchent les poumons et augmentent la soif. L'attente dans ces conditions risque d'être désastreuse. Saint-Louis voudrait aller de l'avant tout de suite, mais l'entourage du roi lui fait remarquer qu'il faut attendre Charles d'Anjou avec ses importants renforts. C'est alors qu'une épidémie provoquée par la chaleur, l'insuffisance des vivres et surtout le manque d'eau s'abat sur l'armée, genre de dysenterie ou de choléra. Une des premières victimes est le jeune prince Jean Tristan, le fils de Saint-Louis, né à Damiette, dans les circonstances tragiques que l'on sait. Ce charmant prince, beau jeune homme de 20 ans, parti plein d'enthousiasme aux côtés de son père meurt le 3 août. On n'osa pas annoncer au roi, déjà malade, le décès de son fils. Ce n'est que quelques jours plus tard que son confesseur lui apprend l'affreuse nouvelle. Toujours résigné à la volonté de Dieu, le souverain dit simplement: Le Seigneur me l'a donné, puis me l'a ôté. Que son nom soit béni. L'état du roi empire rapidement. Se sachant perdu et surmontant ses souffrances avec une grande force d'âme, il appelle à son chevet l'héritier du royaume, Philippe, et lui laisse ses derniers enseignements qui constituent un admirable programme de vie chrétienne. Beau fils, lui dit-il, la première chose que je t'enseigne, c'est que tu mettes tout ton cœur à aimer Dieu, car sans cela nul ne peut se sauver. Garde-toi donc de faire chose qui lui déplaise, à savoir pécher. Tu devrais plutôt désirer souffrir toute manière de tourment que de pécher mortellement. Aie le cœur doux et pitoyable aux pauvres. Fais justice à chacun, tant aux pauvres qu'aux riches. Veille bien à ce que tes sujets vivent en paix entre eux, et sois loyaux vis-à-vis de toi. Maintiens surtout dans les bonnes villes et cités les libertés que tes devanciers leur ont accordées. Et je te supplie, mon enfant, que tu aies de moi souvenance, ainsi que de ma pauvre âme, et que tu me secours par messe, oraison, prière, aumônes et bienfaits partout ton royaume. Et je te donne toute bénédiction que jamais père puisse donner à son enfant. Pendant 4 semaines, l'agonie du roi va se prolonger. Parfaitement conscient de son état, il continue encore à donner des ordres à l'armée, suit dévotement de son lit la messe dite chaque matin sous sa tente. Lorsque sa fin approcha, il communia et reçut l'extrême-onction. Le 25 août 1270, au lever du jour, joignant les mains, il put encore prier distinctement. Beau sire Dieu, dit-il, aie pitié de ces pauvres gens que j'ai amenés ici et reconduis-les dans leur pays. Ne permets pas qu'ils tombent dans la main des infidèles et qu'ils soient obligés de renier leur foi en ton saint nom. Un peu plus tard, ses lèvres murmurèrent: Seigneur, j'entrerai dans ta demeure. Toute l'armée en pleurs, entourait sa tente. Il eut encore la force d'ordonner qu'on l'étendît sur une couche de cendres. Veillé jusqu'aux dernières minutes par sa fille Isabelle, les bras en croix, le visage rayonnant de sérénité et de foi, à 3 heures de l'après-midi, il rendit le dernier soupir. Le roi quittait ce monde dans sa 57e année. La nouvelle se répandit immédiatement dans tout le camp et ce fut une lamentation déchirante de tous ces braves pleurant leur père. À peine Louis IX vient-il d'expirer qu'apparaît la flotte de Charles d'Anjou dont l'arrivée sauve l'armée croisée. Le frère du roi, après avoir débarqué, vient aussitôt s'agenouiller devant le corps de son frère. Puis, avec son autre frère, Alphonse de Poitiers, se rend pour le saluer dans l'attente du nouveau roi, Philippe III. Le jeune roi de France, que sa bravoure devant l'ennemi allait bientôt faire surnommer le Hardi, décide de continuer l'œuvre entreprise par son père et, avec les renforts qui viennent d'arriver, il attaque les musulmans. L'ardeur des croisés, exaspérée par la mort de Saint-Louis, refoula les troupes ennemies avec une telle vigueur que, craignant la prise d'assaut de Tunis, le sultan préféra négocier avec les Francs. Deux accords, signés le 13 octobre et le 21 novembre, aboutirent, moyennant l'évacuation de la Tunisie, à la libération des prisonniers chrétiens. De plus, l'engagement fut pris par le sultan de laisser librement s'installer en terre tunisienne des prêtres et des moines chrétiens qui pourraient demeurer dans ces états et y bâtir des monastères et des églises. Le corps de Louis IX fut ramené en Sicile par son fils et son frère, mais au cours du voyage, la flotte fut en partie jetée à la côte par suite d'une effroyable tempête. Peu après, le roi et la reine de Navarre, gendre et fille de Saint-Louis, Alphonse de Poitiers et sa femme, son frère et sa belle-sœur, succombaient à leur tour, victimes du même mal que le roi. Tel fut le tragique bilan de la dernière croisade pour la famille royale. Le cœur du roi fut conservé à l'abbaye de Montréal, près de Palerme. Sa dépouille, accompagnée par Philippe III, revint en France après avoir été à Rome, saluée par le pape. À Paris, les funérailles solennelles eurent lieu à Notre-Dame, au milieu d'une foule immense, en larmes. Puis, le lendemain, l'abbaye de Saint-Denis reçut le corps du roi qui prit place aux côtés des cercueils de son père et de son grand-père. C'est là qu'il reposa jusqu'au sombre jour de la Révolution.